11. Mais aucun d'eux n'entend l'histoire de Ted dans le Connecticut. Il déclare qu'il la garde pour un autre jour et explique à ses auditeurs qu'il s'est fait rattraper à Bridgeport alors qu'il essayait d'accumuler assez d'argent liquide pour disparaître définitivement. Les ignobles l'avaient jeté dans une voiture, ramené à New York, dans un bouge du nom du Cochon du Sud. De là, il était retourné à Fédic et, de Fédic, à la gare de Tonnefoudre. De la gare, il était revenu au Devartois, au Ted. On est tous tellement contents de vous revoir. Bienvenue à la maison. La quatrième cassette est à présent déroulée aux trois quarts et Ted n'a plus qu'un filet de voix enroué. Néanmoins, il poursuit hardiment.
Je n'étais pas parti longtemps, mais pendant mon absence, le temps avait fait un de ces bonds en avant imprévisibles. Uma Otego était hors jeu, peut-être à cause de moi, et Prentice du New Jersey, le Kidam, était entré en scène. Lui et Finley m'ont interrogé bon nombre de fois dans les appartements du maître. Il n'y eut pas de torture physique. J'imagine qu'il me considérait encore comme trop important pour prendre le risque de m'abîmer. Mais ce ne fut pas une partie de plaisir, et ils mirent mon esprit salement à l'épreuve. Ils m'expliquèrent aussi très clairement que, si j'essayais de nouveau de m'enfuir, mes amis du Connecticut seraient immédiatement mis à mort. J'ai répondu: « Vous ne comprenez pas, les gars. Si je continue mon boulot, ils sortent de toute manière. Tout le monde sort de scène, à l'exception peut-être de celui que vous appelez le roi cramoisi. » Prentice a mis ses mains l'une contre l'autre, les doigts enclochés, avec cet air insupportable qu'il a, et il m'a dit « C'est peut-être vrai. » Ou peut-être pas, Sy, mais si ça l'est, quand nous sortirons comme vous dites, nous ne souffrirons pas. Tandis que le petit Bobby et la petite Carole, sans parler de la mère de Carole et de l'ami de Bobby, Sully John. Il n'a pas eu à terminer sa phrase. Je ne sais toujours pas s'ils ont mesuré à quel point ils m'ont fait peur en menaçant mes jeunes amis. Et combien ils m'ont mis en colère aussi. Toutes leurs questions se ramenaient à deux points, aux deux choses qu'ils voulaient réellement savoir. Pourquoi je m'étais enfui et qui m'avait aidé? J'aurais pu rester en boucle sur le mode nom, prénom, matricule, mais j'ai décidé de tenter le coup et de me montrer un peu plus expansif. Si j'avais voulu m'enfuir, c'est parce qu'à travers ce que disaient certains des gardes cantois, j'avais compris ce que nous faisions réellement et que cette idée ne me plaisait pas. Quant à savoir comment j'étais sorti, je leur ai dit que je n'en savais rien, que je m'étais couché un soir pour me réveiller près de la route Mérite. Ils ont commencé par se moquer de mon histoire pour y croire à moitié. Surtout parce que je n'ai pas varié d'un iota à chaque fois que j'ai dû la leur répéter. Et bien sûr, ils mesuraient déjà mon pouvoir et savaient que j'étais différent des autres. Est-ce que vous croyez être un téléport par le subconscient, Sy? M'a demandé Finley. Comment je pourrais le savoir? Lui ai-je répliqué. Toujours répondre par une question, je pense que c'est une bonne règle pendant un interrogatoire, tant que ça reste un interrogatoire peu musclé comme celui-là. Je n'ai jamais ressenti une aptitude de ce genre, mais on ne sait pas toujours ce qui se tapit dans notre subconscient, n'est-ce pas? Vous feriez mieux d'espérer que ce ne soit pas votre cas, a répondu Prentice. Nous pouvons admettre et tirer profit de n'importe quel talent, même le plus loufoque ici. Tout, sauf celui-là. Ce talent-là, monsieur Brottigan, signerait l'arrêt de mort d'un employé même aussi précieux que vous. Je n'étais pas certain de le croire, mais plus tard, Trampas me donna des raisons de penser que Prentice avait peut-être dit la vérité. Quoi qu'il en soit, c'était ma version des faits, et je ne m'en suis jamais écarté. Le domestique de Prentice. Un type du nom de Tassa. Un hume, soit dit en passant, a porté des biscuits et des boîtes de Nozala. J'aime bien ça parce que ça me rappelle le goût du cola. Et Prentice m'offrait tout ce que je voulais, si bien sûr je leur disais où j'avais récolté mes informations et comment j'avais quitté Algulciento. Puis c'était reparti pour toute la série des questions, sauf que cette fois, Prentice et la fouine mâchonnaient leurs biscuits et buvaient le nausie. Par moments, ils cédaient et me donnaient une gorgée, une bouchée. Pour les interrogatoires, je crois qu'il leur manquait un petit côté nazi, s'ils voulaient venir à bout de mes secrets. Ils ont essayé de me proguer, bien sûr, mais vous avez déjà entendu ce vieux proverbe qui dit que ce n'est pas à un vieux baratineur qu'on apprend à dire des conneries. Eddie et Susanna acquiescent. Jake aussi, qui l'a entendu prononcer par son père au cours de ses nombreuses conversations concernant les programmes de la chaîne. « Je parie que oui, » reprend Ted. « Eh bien, il est aussi juste de dire qu'on ne peut pas proguer un prog, du moins pas celui qui a atteint un certain degré de compréhension. » Et j'ai intérêt à en venir à l'essentiel avant que ma voix me fasse définitivement faux bond. Un jour, 3 semaines environ après que les ignobles m'ont ramené de force, Trampas est venu vers moi en pleine rue principale à Pleasantville. Entre-temps, j'avais rencontré Dinky, je l'avais identifié comme une âme sœur, et avec son aide, je commençais à mieux connaître Chimie. Outre mes interrogatoires à la maison du gardien, il se passait un tas de choses. J'avais à peine eu le temps de penser à Trampas depuis mon retour, mais lui n'avait pas pensé à grand-chose d'autre qu'à moi, comme je le découvris très vite. « Je connais les réponses aux questions qu'il vous pose sans arrêt, » me dit-il. « Ce que j'ignore, c'est pourquoi vous ne m'avez pas encore dénoncé. » Je lui ai dit que l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit, que je n'avais pas été élevé de cette manière pour cafarder. Et puis ce n'était pas comme s'il me collait un bâton électrifié dans le rectum ou qu'il m'arrachait les ongles, même s'ils auraient pu avoir recours à ces techniques avec un autre que moi. Le pire qu'il m'ait fait était de me faire baver devant un plat de biscuits posé sur le bureau de Prentice pendant 1 heure et demie, sans m'en donner un seul. « J'ai commencé par être en colère contre vous, » dit Trampas, « et puis j'ai compris, à contre-cœur, que j'aurais sans doute fait pareil à votre place. La semaine de votre retour, je n'ai pas beaucoup dormi, je peux vous le dire. Je restais allongé dans mon lit. » Adam Lee, m'attendant à les voir débarquer à tout instant pour m'emmener. Vous avez une petite idée de ce qu'il me ferait s'il découvrait que c'est moi, n'est-ce pas ? Je lui ai répondu que non. Alors il m'a expliqué qu'il se ferait sermonner par Gasky, le lieutenant de Finley, pour se faire ensuite envoyer Manu Militari dans les terres perdues, ou bien pour mourir dans la Discordia, ou pour trouver un emploi au château du Roi Rouge. Mais un tel voyage ne se ferait pas sans mal. Au sud-est de Fédic, on pouvait attraper des saletés comme la dévorante. Le cancer, sans doute, mais d'un genre très rapide, très douloureux et très vicieux. Ou bien ce qu'on appelait la folle. Les enfants de Roderick attrapent couramment ces deux mots, et d'autres aussi. Les maladies de peau mineure à tonne foudre, l'eczéma, les furoncles, les plaques, ce ne sont que le début des problèmes dans le monde ultime. En cas d'exil, entrer au service de la cour du roi cramoisi serait le seul espoir. Il était certain qu'un cantois comme Trampas ne pouvait se rendre au Cala. Elles sont plus près, réelles, et il y a du vrai soleil là-bas. Mais vous imaginez ce qui pourrait arriver à un ignoble ou à un taïn dans l'arc des Calas. Le cas-tête de Roland l'imagine très bien. « N'exagérez pas, lui ai-je répondu, comme pourrait le dire Dinky, le petit nouveau. Je ne vais pas laver mon linge sale sur tous les toits. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de chevaleresque là-dedans. » Il a ajouté qu'il m'en était reconnaissant quoi qu'il en soit, puis il a regardé autour de lui et il a dit à voix très basse « Je vous remercierai de votre gentillesse, Ted, en vous conseillant de vous montrer aussi coopératif que vous le pourrez. Je ne dis pas qu'il faut que vous me créiez des ennuis, mais je ne veux pas que vous vous en attiriez plus. » « Peut-être qu'ils n'ont pas autant besoin de vous que vous le pensez. » « Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement, car ce qui suit pourrait bien être d'une importance capitale. Je n'en sais rien, pour tout dire. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que ce que Trampas m'a dit ensuite m'a plongé dans un effroi profond. » Il a dit que tous les mondes de l'autre côté, il n'y en a qu'un qui est unique. On l'appelle le monde réel. Tout ce que Trampas a l'air d'en savoir, c'est qu'il est réel au même titre que l'entre-deux-mondes l'était, avant que les rayons commencent à décliner et que l'entre-deux-mondes change. Du côté amérique de ce monde réel, d'après lui, le temps se contracte parfois, mais il ne défile que dans un sens, vers l'avant. Et dans ce monde vit un homme qui joue aussi le rôle de facilitateur, d'une certaine manière. Peut-être même est-il une sorte de gardien mortel du rayon de Gan.
12. Roland jeta un regard à Eddie. Et au moment où leurs yeux se croisèrent, ils articulèrent tous deux en silence le même mot. King. 13. Trampas m'a raconté que le roi cramoisi avait essayé de tuer cet homme, mais que le cas l'avait toujours protégé. On dit que son chant a mis en mouvement la boucle, a dit Trampas. Bien que personne ne semble savoir ce que ça veut dire exactement. Maintenant, cependant, le cas, non pas le roi rouge, mais ce bon vieux cas, a décrété que cet homme, ce gardien ou je ne sais quoi, devait mourir. Il s'est arrêté, voyez-vous. Quel que soit le chant qu'il était censé chanter, il s'est arrêté, et ça a fini par le rendre vulnérable. Mais pas face au roi cramoisi. Trampas me répétait ça sans cesse. Non, c'est face au cas qu'il est vulnérable. Il ne chante plus. Son chant, celui qui compte, s'est achevé. Il a oublié la rose. 14. Dehors, dans le silence, Mordred entendit cela et se retira pour y réfléchir. 15. Trampas ne m'a raconté tout ça que pour que je comprenne que je n'étais plus totalement indispensable. Bien sûr, ils veulent me garder. J'imagine qu'ils auraient un certain orgueil à venir à bout du rayon de Chardic avant que la mort de cet homme ne fasse rompre le rayon de Gan. Une pause. Voit-il la folie fatale d'une race qui vacille au bord de l'amnésie et qui va finir par basculer dans le gouffre? Visiblement pas. Si tel était le cas, pour commencer, il ne se précipiterait pas, c'est certain. Ou n'est-ce là qu'un simple manque d'imagination? On n'aime pas à penser qu'une carence aussi primaire que celle-là pourrait déclencher la faim. Et pourtant...
16. Exaspéré, Roland décrivit un moulinet avec la main, comme si le vieil homme dont ils écoutaient la voix pouvait le voir. Il voulait entendre, entendre clairement et jusqu'au moindre mot ce que le garde Cantois savait au sujet de Stephen King, au lieu de quoi Brottigan s'était lancé dans une digression discursive sans queue ni tête. Ce qui était compréhensible. Le pauvre homme était visiblement épuisé. Mais il y avait ici quelque chose de plus important que tout le reste. Eddie le savait, lui aussi. Roland le lisait sur le visage tendu du jeune homme. Ils baissèrent tous les deux les yeux pour voir la bande marron restante, épaisse d'à peine quelques millimètres désormais, fondre à vue d'œil. 17.
Pourtant, nous ne sommes que de pauvres humes plongés dans les ténèbres de l'ignorance, et je suppose que ces choses-là nous dépassent, en tout cas qu'on ne peut avoir aucune certitude dans ce domaine.
Il pousse un long soupir de lassitude. La bande tourne, dévidant son dernier rouleau, glissant inutilement sous la tête de lecture, puis, enfin,
« J'ai demandé le nom de cet homme magique. » Et Trampas a répondu, « Je ne le sais point, Ted. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a plus de magie en lui, car il a abandonné ce que le cas attendait de lui qu'il fasse, quoi que ce soit. Si nous le laissons livrer à lui-même, le cas de 19, celui de son monde, et le cas de 99, celui de notre monde, s'allieront pour... Puis plus rien. C'est là que s'arrête la bande.
18. La bobine continua de tourner et l'extrémité brillante du ruban marron se mit à claquer avec son fouip-fouip-fouip lent, jusqu'à ce qu'Eddie se penche en avant et appuie sur le bouton stop. Il marmonna « Putain !» entre ses dents.
« Pile quand ça commençait à devenir intéressant !»
commenta Jake.
« Et toujours ces chiffres, 19 et 99 !»
Il marqua une pause, puis les dit à la suite l'un de l'autre.
« 19 et 99 !»
Puis une troisième fois.
« 1999, l'année clé dans le monde clé !» Là où Mia est allée accoucher, là où se trouve la 13e noire à présent.
Monde clé, année clé,
répéta Susanna. Elle sortit la bande de la machine, la souleva à hauteur d'une des lampes et la fixa pendant un instant avant de la replacer dans sa boîte.
Là où le temps ne va que dans une seule direction, comme il se doit.
Gan a créé le temps. Dit Roland. C'est ce que racontent les anciennes légendes. Gan s'est élevé du néant. Dans certains récits, c'est de la mer, mais dans tous les cas, ça désigne le prime. Et il a fabriqué le monde. Puis, d'une pichenette du doigt, il l'a fait tourner, et c'est ainsi qu'est apparu le temps.
Quelque chose est en train de prendre forme dans la grotte, comme une révélation. Ils le sentaient tous, et c'était aussi près d'éclater que l'avait été le ventre de Mia à la fin. 19. 99. Ces chiffres les hantaient. Ces chiffres avaient surgi partout. Ils les avaient vus dans le ciel, écrits sur des palissades en bois, entendus en rêve. Othé leva la tête, les oreilles dressées, les yeux brillants.
Quand Mia a quitté la chambre que nous avions prise au Plaza Park,
reprit Susanna,
pour aller au cochon du Sud. La chambre 1919, au fait. Je suis tombé dans une sorte de transe. J'ai rêvé d'une prison, de présentateurs de radio qui annonçaient qu'un tel et un tel étaient morts.
Tu nous l'as raconté, fit Eddie.
Elle secoua violemment la tête.
Pas tout. Je ne vous ai pas tout raconté. Parce qu'une partie paraissait n'avoir aucun sens. Entendre Dave Garroway annoncer que le petit garçon du président Kennedy était mort, par exemple. Le petit John, lui qui a salué le cercueil de son papa quand on a retiré le catafalque. Je ne voulais pas raconter parce que cette partie-là, c'était n'importe quoi. Jake, Eddie, est-ce que le petit John Kennedy est mort dans vos camps? Dans n'importe lequel de vos camps ?
Ils firent tous les deux non de la tête. Jake n'était même pas sûr de savoir de qui Susanna parlait.
Pourtant, si, dans le monde clé, et dans un camp ultérieur à tous les nôtres. Je parie que c'était dans le camp de 1999. Ainsi périt le fils du dernier pistolero, au Discordia. Ce que je crois maintenant, c'est que j'entendais un truc du genre rubrique nécrologique du supplément « Célébrité » de Time. Toutes les différentes époques se mélangeaient. John Kennedy, puis Stephen King. Je n'avais jamais entendu parler de lui, mais David Brinkley disait qu'il avait écrit « Salem ». C'est bien le livre dans lequel apparaît le père Callahan, pas vrai ?
Roland T. dit à Kieser.
Le père Callahan nous a raconté son histoire.
Ouais, fit Jake. Mais qu'est-ce que...
Elle ne tint pas compte de sa remarque. Elle avait les yeux embrumés et lointains. Des yeux à un regard de tout comprendre.
Et voici venir Brottigan, qui se joint aux quatre-têtes de 19, et il raconte sa propre histoire. Et regardez, regardez le compteur du magnétophone.
Ils se penchèrent. Dans la petite fenêtre du compteur, ils lurent 1999.
Je pense que King a aussi écrit l'histoire de Ted,
dit Susanna.
Quelqu'un veut parier quand cette histoire est sortie ou sortira dans le monde clé? En quelle année?
En 1999,
asséna Jake à mi-voix.
Mais pas la partie qu'on a entendue, celle qu'on n'a pas entendue justement. L'aventure de Ted dans le Connecticut. Et vous l'avez rencontré ?
Commenta Susanna en regardant son Dean et son mari.
Vous avez rencontré Stephen King ?
Une fois encore, ils acquiescèrent.
C'est lui qui a créé le père, qui a créé Brottigan, qui nous a créés, nous.
Elle se parlait comme à elle-même, puis elle secoua soudain la tête.
Non. Toutes choses servent le rayon. Il nous a facilité.
Ouais,
fit Eddie en opinant.
Ouais, ok. Tout m'a l'air de coller.
Dans mon rêve, j'étais dans une cellule, dit-elle. Je portais les vêtements que j'avais quand on m'a arrêté. Et David Brinkley a dit que Stephen King était mort. Malheur, Discordia. Quelque chose dans ce goût-là. Brinkley a dit qu'il était...
Elle s'interrompit, fronçant les sourcils. Elle aurait demandé à Roland de l'hypnotiser pour que le souvenir lui revienne si ça avait été nécessaire, mais ce ne fut pas le cas.
Brinkley a dit que King s'était fait renverser par une fourgonnette alors qu'il se promenait près de chez lui, à Lovell, dans le Maine.
Eddie sursauta. Roland se redressa, les yeux brûlants.
« Tu dis ainsi ?»
Susanna hocha la tête d'un air catégorique.
« Il a acheté la maison du chemin du dos de la tortue !»
rugit le pistolero. Il tendit le bras et attrapa Eddie par la chemise. Eddie ne parut même pas s'en rendre compte.
« Bien sûr qu'il l'a acheté. Le cas parle et le vent souffle. Il a poussé un peu plus avant sur le sentier du rayon et il a acheté une maison là où il est le plus fragile. » Là où nous avons vu les entrants, où nous avons discuté avec John Cullum avant de franchir la porte. En doutes-tu ? En doutes-tu une seule foutue seconde ?
Eddie secoua la tête. Bien sûr que non, il n'en doutait pas. Il y avait eu un déclic, comme quand, à la fête foraine, on frappe de toutes ses forces sur la pédale avec le maillet et que le plomb monte jusqu'en haut et fait tinter la cloche. On repartait avec une poupée quand on faisait sonner la cloche. Mais est-ce que c'était parce que King avait décidé que c'était une poupée? Parce que King venait du monde où Gann a créé le temps d'une pichenette de l'index? Parce que si King dit que c'est une poupée, on dit tous que c'est une poupée, et on dit aussi grand merci. S'il s'était mis en tête que le prix, si on faisait sonner la cloche de la force, c'était une peluche, est-ce que tout le monde dirait amen à la peluche? Pour Eddie, la réponse était oui. Aussi sûrement que Co-op City se trouvait à Brooklyn.
David Brinkley a dit que King avait 52 ans. Vous qui l'avez rencontré, les garçons, faites un petit calcul rapide. Est-ce qu'il pouvait avoir 52 ans En 1999 ?
Tu peux parier ta vertu là-dessus, fit Eddie. Il adressa à Roland un regard sombre et désemparé.
Et comme ce 19, c'est le chiffre qu'on n'arrête pas de trouver sur notre chemin, Ted Stevens Brottigan, allez-y, comptez-moi ces lettres. Je vous parie que ça n'est pas seulement une question d'année. 19,
c'est une date,
suggéra Jake d'une voix monocorde.
C'est sûr, la date clé de l'année clé dans le monde clé. Le 19 quelque chose de l'année 1999. Probablement un mois d'été, vu qu'il était sorti se promener.
C'est l'été en ce moment là-bas,
dit Susanna.
On est au mois de juin, le mois 6. Retournez le 6 et vous obtenez un 9.
Ouais, et niche est une anagramme de chien, si on va par là, fit remarquer Eddie, l'air cependant mal à l'aise.
Mais je crois qu'elle a raison,
intervint Jake.
Je pense que c'est le 19 juin. C'est ce jour-là que King prendra la route infernale et la probabilité qu'il reprenne l'histoire de la tour sombre, notre histoire, est totalement capoute. Le rayon de Gan va disparaître avec le tout. Il restera le rayon de Shardik, mais il est déjà très abîmé.
Il se tourna vers Roland, le visage pâle, les lèvres presque bleues.
Il va craquer comme une brindille.
Peut-être même que ça s'est déjà produit,
dit Susanna. Non, répliqua Roland.
Comment peux-tu en être certain?
Demanda-t-elle. Il lui lança un sourire glacial sans une pointe d'humour.
Parce que si c'était le cas, nous ne serions plus là.
19.
« Comment peut-on empêcher ça ?»
lança Eddie. « Ce type, Trampas, il a dit à Ted que c'était le cas. »«
Il s'est peut-être trompé, »
suggéra Jake d'une voix mal assurée, un peu traînante.
« C'était seulement une rumeur, alors peut-être qu'il a mal compris. Et puis, peut-être que King en a encore pour un mois jusqu'en juillet, ou même août. » Et pourquoi pas septembre? Ça pourrait être septembre, vous ne croyez pas? Septembre, c'est le mois neuf, après tout.
Ils se tournèrent tous vers Roland, qui s'était assis les jambes tendues devant lui.
C'est là que j'ai mal,
dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. Il se toucha la hanche droite, puis les côtes, puis le côté de la tête.
J'ai des maux de tête, de plus en plus violents. Je n'ai pas jugé utile de vous en parler.
De sa main droite atrophiée, il descendit le long de sa hanche droite.
C'est là qu'il sera touché. Une hanche éclatée. Les côtes en mille morceaux, la tête écrasée, balancée mort dans le fossé. Le cas est la fin du cas.
Ses yeux s'éclaircirent et il se tourna vers Susanna, de l'urgence dans le regard.
« À quelle date tu étais à New York ? Rafraîchis-moi la mémoire. »«
Le 1er juin 1999. »
Roland hocha la tête et s'adressa à Jake.
« Et toi, pareil, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Alors, Fedic, une pause, puis droit sur tonne foudre. »
Il s'interrompit, parut réfléchir, puis articula quatre mots en les accentuant.
« Il reste du temps. »
Mais le temps avance plus vite par ici.
Et s'il fait encore un bond en avant?
Le cas.
Leurs paroles se chevauchaient. Puis ils se turent tous de nouveau, le regard fixé sur le pistolero.
On peut changer le cas, fit Roland. Ça, c'est déjà fait. Il y a toujours un prix à payer. Le cachume peut-être bien, mais ça peut se faire.
Et comment on arrivera là-bas?
Demanda Eddie.
« Il n'y a qu'un moyen, » répondit Roland. « Il faut que Chimie nous y envoie. »
Le silence pesait sur la grotte, brisé seulement par le grondement lointain du tonnerre qui donnait son nom à cette triste terre.
« Nous avons deux tâches à accomplir, » résuma Eddie. « L'écrivain et les briseurs. Par quoi on commence ?»«
Par l'écrivain, »
conseilla Jack, tant qu'on a encore le temps de le sauver.
Mais Roland secouait la tête.
Comment ça, non? S'écria Eddie. Et pourquoi non? Tu peux me le dire? Tu sais bien comme le temps est glissant là-bas, impossible de revenir en arrière. Si on rate la fenêtre, on n'aura jamais de seconde chance.
Mais il faut aussi qu'on mette le rayon de Chardic en sécurité, objecta Roland.
Est-ce que tu essaies de dire que Ted et ce Dinky ne laisseraient pas Chimie nous aider tant qu'on ne les aurait pas aidés, nous?
Non. Chimie le ferait pour moi, j'en suis sûr. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose pendant qu'on sera dans le monde clé. On resterait en rade en 1999.
Il y a la porte sur le chemin du dos de la tortue, commença Eddie.
Même si elle est toujours là en 1999, Eddie. Ted nous a dit que le rayon de Chardic commence déjà à plier.
Roland secoua la tête.
Mon cœur me dicte que cette prison là-bas est notre point de départ. Si l'un de vous peut me prouver le contraire, je l'écouterai, et bien volontiers.
Personne ne dit mot. À l'extérieur de la grotte, le vent soufflait toujours.
Il nous faut consulter Ted avant de prendre cette décision,
finit par dire Susanna.
Non,
répondit Jack.
Non,
renchérit Otey.
Sans surprise, si Jack le disait, Otey était prêt à signer tout de suite, pas de problème.
C'est Chimie qu'il faut consulter,
suggéra Jack.
Demandez à Chimie ce que lui, il nous conseille.
Lentement, Roland hocha la tête.